Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% Foot, l'émission consacrée à l'Olympique de Marseille et au football régional. Pour m'accompagner, Franck et Patrick, bonjour messieurs.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on va revenir sur ce week-end football. Pour commencer, on connaissait la manita sur le Classico espagnol. Maintenant, depuis dimanche soir, on connaît la manita version française dans le Classique. Voilà, puisque le PSG a infligé une cuisante et lourde défaite à l'Olympique de Marseille. Les hommes de Roberto De Zerbi s'en relèveront-ils ? On va en parler et vous expliquer un peu la situation de l'Olympique de Marseille. Depuis 15 jours et cette élimination face à Bruges, voilà, le navire marseillais tangue et voilà, il y a beaucoup de choses à dire, voilà. Mais on va commencer d'abord avec l'Arkema Première Ligue et heureusement ça a été un week-end plutôt bon pour les filles de Corinja qui sont allées s'imposer, qui se donnent un bon bol d'air dans cette 15e journée d'Arkema Première Ligue avec une belle victoire inter-alsacienne sur la pelouse de la Méno face au Racing Club de Strasbourg.
Les notes positives de ce dimanche en l'occurrence.
Ouais. Oui, pour nous, oui. Oui, rappelons que la prochaine journée, qui n'est pas ce week-end mais le week-end d'après, elles reçoivent Lyon. Mm-hmm. Alors quand tu reçois Lyon, tu comptes 0 points.
Voilà, le retour samedi 21 février,
c'est vraiment très haut niveau. Et là, tu es allé gagner contre une équipe qui est dans ton championnat, c'est-à-dire le maintien. Voilà.
Il y avait quand même 10 points d'écart entre cette équipe des Marseillaises et cette équipe alsacienne du Racing Club de Strasbourg.
Strasbourg qui reste une belle équipe.
Mais c'est la deuxième moitié, quoi. C'est pas les gros. Voilà. Les gros monstres.
À notre portée, on peut le dire ainsi. Ouais.
Et tu as remporté une belle victoire. Voilà.
Et il y a une joueuse qui s'est parfaitement illustrée, qui s'est mise en valeur, Mathilde Bourdieu, avec un quadruplé. Voilà, les 4 buts marseillais ont été inscrits par la même joueuse. Mm-hmm. Et, voilà, en l'occurrence, Mathilde Bourdieu qui a réussi l'exploit de scorer à 4 reprises.
Oui. Et c'est d'autant plus qu'elle était un peu dans le dur les dernières semaines.
Effectivement.
Ça semble vouloir dire qu'elle retrouve la forme. Mmh. C'est une bonne joueuse.
Oh oui.
Et tu as besoin d'une avant-centre qui est efficace et qui plante. Ça te permet parce que...
Elle était bien entourée dans sa position d'avant-centre avec Marie-Charlotte Léger qui était à ses côtés, évidemment.
Quand on connaît le management de Corinne Diacre, je pense qu'il y a dû avoir une petite soufflante.
Effectivement, une remise en place qui était nécessaire. Voilà, mais en l'occurrence, elles ont bien réussi.
Et ça lui a fait le plus grand bien.
Oui. Voilà. C'est une entraîneur, Corinne Diacre, qui est expérimentée et compétente, même si elle a été critiquée quand elle était en équipe de France. Il ne faut pas ne pas aimer les Lyonnaises quand on est entraîneur de l'équipe de France.
Ouais.
Donc elle s'est fait pas mal d'errenter, mais c'est quand même un entraîneur d'expérience et compétente, et elle a bien recentré, recadré, et c'est bien parce que là, quand tu regardes les résultats de ce week-end, tiens, les équipes de Lens, Saint-Etienne ont perdu et tout. Ça veut dire que tu as maintenant un paquet de points d'avance.
Oui,
donc,
elles sont très
bien positionnées. Il y avait aussi un derby francilien entre les deux équipes de Paris. Ça tournait à l'avantage du Paris Saint-Germain face au Paris FC qui avait battu les nos Marseillaises à l'occasion de la dernière journée.
Voilà, mais là, tu es sur les trois équipes de tête sur le podium.
Voilà, avec Fleury.
Et Fleury en 4, tu as les Lyonnaises intouchables et puis les deux Parisiennes, Paris FC et Paris Saint-Germain. Paris FC étant toujours en Ligue des Champions, en course.
Ouais.
C'est du très lourd. Mais ce qui est bien, c'est qu'on commence à structurer et qu'on a une équipe qui a une petite marge pour assurer tranquille la fin de saison et construire, puisque au mercato, on a recruté quelques jeunes joueuses.
Effectivement, peut-être manque-t-il à certains postes, même fait. Ce fut un recrutement fort judicieux.
Ouais.
Voilà, maintenant, au niveau du
classement... C'est vrai que ça a été des recrues uniquement à vocation défensive. Oui. Et puis bon, ça a été en partie critiqué de la part de la direction marseillaise, mais bon, on espère avec cette belle victoire face au Racing voilà. que ça va repartir et ça sera un regain de forme qui sera salutaire pour la suite de la saison.
Bon, ouais. mais pour le prochain match, ça va être un peu compliqué. Pour le match suivant également, puisqu'ensuite, ce sera Paris-Saint-Germain à Paris. Ouais. Voilà, après Lyon, la réception au stade Turcan, donc voilà, le 21 à 21h pour la 16e journée. Ouais. Mais bon, la position au classement ne varie guère et elle est très intéressante ouais. dans notre position. Quoi, là. Oui, on est les... toujours 9e avec 15 points et voilà, voilà on a distancé Lens, Saint-Etienne et Montpellier qui voilà. est...
Qui ferme cette marche dans ce championnat d'Arkema Première Ligue. Voilà, je pense qu'on on a fait le tour concernant les féminines. On va passer rapidement, avant de débriefer ben, l'actu de l'Olympique de Marseille, des hommes de Roberto De Zerbi, avec un petit mot de national et le Stade qui s'est incliné sur la pelouse de Concarneau dans le Finistère. Voilà, ben, les hommes de Gabriel Santos qui n'avancent plus puisque... ils sont 10e actuellement et un pénalty à la 85e on suffit pour ces joueurs de Concarneau à battre ces Aubagnais là à l'occasion de
très,
cette 16e journée
de terminer ce match comme ça avec il y avait quelques possibilités mais ils n'ont pas su les mettre justement les développer et mettre un but au fond et une défaite malheureusement sur 1-0. Ouais, ouais.
Alors, pour avoir regardé le match oui. chez nos collègues de BFM
Marseille, voilà.
pareil avant.
D'ailleurs, soit en passant, j'en ai vu pas mal de matchs donc, de Aubagne. C'est un de ceux où je me suis le plus ennuyé.
Absolument.
Pour, dire, voilà, pour rester dans
un. J'avais un terme poli. Similaire.
Voilà. Et c'est. Le mieux que
les Aubagnais ont très peu proposé, donc oui, au niveau du peu. Contenu, c'était très très pauvre.
Tu peux guère espérer mieux qu'un 0-0. Malheureusement, tu as une frappe, une main dans la surface involontaire, mais bon. Voilà, tu
ça s'est joué sur un pénalty à 5 minutes de la fin.
Et voilà. tu perds, et après, c'est trop tard pour essayer de revenir.
Bah, il n'y a pas à crier au scandale mais de ce match-là.
C'est quand je dis que je me suis ennuyé, c'est que tu n'as rien montré. Quoi. Tu sens qu'actuellement, l'équipe d'Aubagne-Herbelle, elle est un peu en difficulté. Il y a moins de jus, moins de contre, comme j'avais vu des matchs à l'extérieur, où ils ont fait pas mal de bons résultats, ou sur des contres, des trucs rapides.
Ça ne sortait mieux jusqu'à présent à l'extérieur qu'à domicile.
Voilà. Et là, je te dis, tu pouvais rien espérer de mieux qu'un 0-0 des familles contre une équipe de bas de tableau. Hein.
Ouais, parce que Concarneau, finalement, se retrouve 8e, un petit peu à notre
niveau. Avec 26 points. Et ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que cette équipe de Concarneau, elle n'avait pas trouvé le chemin de la victoire depuis 3 mois.
Ouais, effectivement.
Elle restait sur une grosse série
négative.
Et malheureusement, la série a pris fin face à nos Aubagnais.
Après, c'est un peu le cas du SCAB, en espérant justement que la série se termine.
Voilà, après, on sait que dans une saison, tu as toujours des hauts, des bas. Là, pour avoir regardé le match, c'était un bas. Tu n'as pas créé grand-chose, tu n'as rien montré. Et ma foi, il n'y a pas de vol. Hein, ils ont archi-dominé. Par contre, ils ne sont pas terribles, Concarneau. Mais bon, ils y ont cru jusqu'au bout et ils ont un péno. Ma foi, le mec, il l'a mis, il fallait le mettre. Et il faut que le SCAB retrouve un peu sa forme de la fin d'année, de novembre.
Là, je pense que peut-être la prochaine journée, il y aura les Burgiens de Bourg-en-Bresse qui viendront au stade de l'Âtre vendredi soir pour la 21e
alors,
journée.
Ça tombe vendredi 13, bien entendu. Alors, je ne sais pas si ça fera la part belle à nos Aubagnais. Nous le verrons très prochainement.
Voilà, oui, puisque la rencontre aura lieu donc vendredi 13 février à 19h30 sur la pelouse. Du stade de l'Âtre.
Mais bon, ils sont quand même, parce qu'on dit qu'ils sont 10e, mais ils sont en fait 8e, c'est au goal average, ils sont 10e. Point, Concarneau les a rattrapés.
Ils ont 25 points.
Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Voilà. C'est vrai que là, avec cette victoire, les joueurs de Concarneau passent devant Aubagne avec un petit point d'avance, puisque Aubagne occupe actuellement la 10e place avec 25 points, tandis que les Finistériens sont 8e avec 26 points.
Voilà, donc ça
se tient. Avec Caen, et évidemment que Villefranche est juste derrière avec Valenciennes à 24 points. Bon, on est toujours dans ce milieu de tableau, il va falloir justement se remettre à niveau pour aller gagner des matchs.
Allez, oui, gagner quelques points, faire, quelques matchs qui te permettent d'assurer tranquille ta fin de saison. Quoi.
Et c'est vrai que pour l'instant, ce championnat est toujours dominé par le trio tête Dijon, Rouen et le FC Sochaux.
C'est-à-dire qu'entre Rouen et Dijon, ils se renvoient la balle, mais ils restent toujours dans les premières places. Ainsi qu'au Sochaux qui est toujours là.
Et ce n'est pas du tout un hasard, c'est trois anciennes équipes de Ligue 1, même si Rouen, c'est il y a longtemps.
Oui, ça remonte à plus loin.
C'est une grande ville, c'est une tradition. Et c'est une équipe qui a joué en Ligue 1 et en Ligue 2 qui est costaud. Quoi. Ouais.
Mais c'est vrai que quand on regarde ces équipes qui occupent le trio tête dans ce championnat de national, je pense que les Aubagnais qui occupent le milieu de tableau n'ont rien à envier à ces équipes-là.
Voilà, Oui, tu es même à égalité avec Caen qui était en Ligue 1 il y a 3 ans. Quoi. Donc voilà. Mais non, mais c'est courageux, c'est pas mal.
Ouais, ben, va falloir pérenniser cette situation, même pas au classement, mais si on peut prendre quelques points de plus, évidemment, pour se mettre à l'abri, nous le sommes pour l'instant. On continue.
Voilà, et être tranquille pour finir la saison tranquille, pas avoir la pression c'est, qui peut des fois paralyser un peu. Voilà.
Voilà, on a terminé avec le national. Ben on va pas attaquer le gros de cette émission. Voilà, l'Olympique de Marseille. Et avant de revenir sur le championnat et la Ligue 1 avec cette grosse défaite subie sur la pelouse du Parc des Princes, juste un petit mot concernant la Coupe de France pour lequel nos Olympiens sont encore en course. De jeudi, donc il y avait le dernier match et le tirage au sort. Donc le Racing Club de Strasbourg a pris la dernière place de qualifié aux dépens de l'AS Monaco. Et il y a eu le tirage au sort juste avant. Ben, les joueurs de Roberto De Zerbi donc, affronteront le Toulouse Football Club à l'Orange Vélodrome le mercredi 4 mars à 21h. Juste avant d'ailleurs de se déplacer en championnat, trois jours après, sur la pelouse du Stadium. Un petit mot sur ce tirage au sort. Patrick et Franck.
C'est plutôt bon, tu joues à la maison. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Déjà, à la base.
Après, quand on regarde les équipes qui restent encore en lice, il reste...
Strasbourg, Lorient, il te reste Lens.
Il y a un Lorient-Nice.
Lyon.
Lens-Lyon. Il y aura un des deux qui tombera sur ce
niveau
quart
de la compétition, évidemment, que bon, même s'il n'y a que de grosses équipes, entre guillemets, c'est vrai qu'en quart de finale, ça commence à devenir très sérieux. Et peu importe, Toulouse, etc., évidemment que sur le papier, ça reste une fois intéressant de tirage, à domicile d'autant plus, mais ça ne suffira pas. Il faut évidemment jouer les matchs comme
parce
il se doit.
Je
pour
pense
le gagner.
Que peut-être le vœu des dirigeants était de recevoir à la maison au stade de l'Odrome.
Parce que c'est quand même après, à condition que le vélodrome soit un atout, c'est-à-dire il faut éviter aussi. Le problème qui avait été réglé la semaine dernière avec la réunion direction club de supporters.
On va y revenir justement quand on va évoquer le championnat et la Ligue 1, parce qu'avant ce match-là, il y aura quand même deux rencontres de Ligue 1 qui se dérouleront à l'Orange Vélodrome avec la réception du Racing Club de Strasbourg samedi à 17h, ainsi que trois jours avant ce quart de finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Qui nous est passé devant au niveau du classement avec sa victoire sur la pelouse de Nantes samedi soir. Donc c'est quand même pour aller chercher ce trophée, cette Coupe de France qui nous fait défaut depuis plus de 40 ans.
Un peu moins de
1989,
40 ans.
1989, on n'oubliera pas cette date-là.
37 ans,
presque 40 ans.
Voilà. Et donc effectivement, c'est pour ça que je disais, on va recevoir deux fois avant deux matchs importants parce que Strasbourg, c'est le match après la claque et la rouste au Parc des Princes.
On peut parler de match essentiel
et Lyon,
les matchs à venir.
C'est l'équipe avec qui, parce qu'on rappelle que pour la Ligue des Champions, la quatrième place t'ouvre deux matchs de barrage pour être qualifié.
Donc, et ce qu'on peut rappeler aussi à nos auditeurs, c'est que l'Olympique Lyonnais, qui viendra au stade Vélodrome dans un peu moins de trois semaines, est toujours en lice sur la compétition européenne
en
Europa League.
Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous, parce qu'ils auront l'Europa League, ça leur fait des matchs. Et ils n'ont pas un effectif non plus.
Après, on verra comment Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de cette équipe de Lyon, gère son effectif.
Je veux bien que certains médias s'extasient sur la jeunesse lyonnaise. Il y a 3-4 gamins de 18 ans qui sont rentrés, qui ont bien joué un match. faut le voir sur la durée. En Europa League, il va commencer à avoir des matchs costauds, puisque normalement, ils sont qualifiés d'office. Donc, en huitième, ils devraient rencontrer le vainqueur du match Lyon-Étoile Rouge. Lille, pardon, Étoile Rouge. S'ils rencontrent Lille, c'est pas un cadeau.
Il risque d'y avoir encore une double confrontation
franco-française,
comme il y a en Ligue des Champions avec Monaco-PSG.
Voilà, donc si Lille se qualifie, ça sera le cas. Et ce n'est pas un cadeau. Et à un moment donné, la jeunesse, c'est bien, mais tu arrives à un certain niveau.
Alors, quid de Lyon ? A-t-on abandonné l'idée d'être troisième de ce championnat?
Non, non,
alors,
il ne faut pas, parce que ils peuvent avoir, parce qu'ils ont à la fois la coupe qui est importante pour eux. Ils reçoivent Lens en quart de finale à Lyon. Donc c'est quand même un objectif, mais Lens, c'est costaud. Ils ont donc les huitièmes.
Et comme je le disais auparavant, c'est vrai que ce match au Stade Vélodrome aura lieu trois jours avant ce quart de finale de Coupe de France. Donc,
C'est sûr que ça va mettre
la
pression.
Où il y aura cet affrontement face au Racing Club de Lens en Coupe.
D'autant plus, pour tout que se passe bien, il faudra que...
Est-ce que Fonseca peut être amené à faire un peu tourner? Parce qu'il aura, la semaine suivante, il aura un match d'Europa League. Donc, est-ce qu'il peut être amené à faire un peu tourner? Parce qu'il n'a pas non plus un effectif de 30 joueurs. Auquel cas, est-ce que leur priorité ne risque pas d'être la Coupe? Parce qu'eux aussi, ils veulent un trophée. Et l'Europa League, c'est quand même difficile, parce qu'il y a quand même des gros morceaux. Donc, on ne sait pas. On ne peut pas savoir.
C'est moins compliqué, c'est moins prestigieux que la Ligue des Champions, mais il reste encore de très belles équipes dans cette
compétition. Il s'agit d'une compétition formidable. Donc, on ne peut pas négliger quoi que ce soit dans ce domaine-là.
Il y a deux ans, on avait fait la demi-finale contre l'Atalante Bergame, futur vainqueur.
Qui avait gagné contre les Vercucelles en finale.
Je peux te dire qu'on bat en finale, on bat les Vercucelles, on a gagné l'Europa League. Je fais 15 fois le tour du Vieux-Port, et là, on a gagné.
Sera pour une prochaine fois.
C'est vrai que même si ce n'est pas la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, pour les supporters et le public marseillais, c'est gagner une Coupe d'Europe, je veux dire.
C'est mieux que la Coupe de France.
Comment va se passer ce quart
de finale? Pour un supporter d'une équipe française, gagner une Coupe d'Europe, même si ce n'est pas la Ligue des Champions, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel.
Aucun club français ne l'a gagné. Nous, on a fait trois finales.
Malheureusement, c'est toujours incliné en
finale. Mais après, contre des grosses pointures. Et malgré tout, c'est plus abordable cette année, parce qu'on rappelle que contrairement aux années précédentes, les éliminés de la Ligue des Champions, ceux qui avaient terminé les barrages ou les trucs comme ça, la chose est révolue à présent, étaient rebasculés les troisièmes.
Et depuis la nouvelle formule de l'an passé, ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas, donc ça te permet d'avoir quand même quelques grosses pointures en moins. Ça reste jouable. Et je pense que les Lyonnais l'ont vu, ils ne sont pas cons. Et donc, eux, ils auront quand même un dilemme, c'est qu'est-ce qu'on choisit.
Mais je ne pense pas, titre personnel, que ce soit un objectif pour eux, L'objectif principal sera quand même de se qualifier et d'être dans les trois premiers, voire quatre, pour être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine, de réaliser un très bon résultat en Ligue Europa, évidemment. Mais pour le reste, le championnat, évidemment, est très, très important.
On parle quand même de l'Olympique Lyonnais, qui sera le principal concurrent de l'Olympique de Marseille pour aller chercher une place sur le podium. Les deux premières places, je pense qu'on peut définitivement abandonner. Sera compliqué d'aller chercher le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain.
Que le Racing Club de Lens se mette à perdre tous leurs matchs et nous gagner tous nos matchs, j'y crois, mais enfin, j'y crois guère.
On disait que Lyon-Lens en quart de finale de coupe.
Oui.
Si Lens est éliminé par Lyon, ce qui est possible.
Bien sûr, un cas de figure
intéressant.
Lens n'aura plus que le championnat et les mecs vont
sachant que cette année, les Lensois ne jouent pas de Coupe d'Europe.
Donc les mecs, ils vont être à fond. Chaque match, ils vont les jouer à fond. Je ne les vois même pas perdre la deuxième place.
Mais est-ce que vous pensez que... pour Pierre Sage, qui est un ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui était encore sur le banc de cette équipe lyonnaise l'an passé, ça ne sera pas un objectif d'aller chercher sa Coupe de France et de battre son ancien club. Hein.
Il est évident que sur tous les tableaux, ils vont tout donner pour justement aller au bout de cette compétition. Voilà.
On rappelle à nos auditeurs que c'est les 120 ans du Racing Club de Lens.
C'est vrai que le club artésien fait son 120e anniversaire cette saison.
Et que Lens n'a jamais gagné la Coupe. Ouais. Ils ont gagné le championnat une fois, mais ils n'ont jamais gagné la Coupe.
Donc, tu fais bien de le rappeler, Patrick.
Voilà, donc ça va être un objectif très sérieux. Et donc, ça va faire un match. Espérons pour nous que ça amène Lyon à être un peu, peut-être, comme je disais, à faire retourner à 3 jours du match de coupe. Ce qui peut nous permettre de... Parce que là, si jamais on venait à faire un mauvais résultat contre Lyon, en dehors du feu dans le stade... parce que là, c'est sûr que les supporters, ils vont glander copieux. Tu es à 3 points de Lyon pour la qualification européenne. Si tu venais à être à 6 points, ça devient très, très, très compliqué.
Ah oui, là, ça serait compromis.
Là, il faut gérer. Ouais. Parce que, bon, tout à l'heure...
Et là, pour l'Olympique de Marseille, avant, bien évidemment, ce match face à l'Olympique Lyonnais, il y aura la réception du Racing Club de Strasbourg samedi au Vélodrome. Il y a un déplacement...
À Brest.
Sur la pelouse du stade Francis Leblé face au stade brestois, qui a battu ce week-end Lorient à la maison. Donc,
Lorient, qui on rappelle, ça faisait 2 mois qu'ils n'avaient plus perdu.
Ouais, voilà. Très belle performance pour les joueurs d'Éric Roy qui ont battu cette équipe d'Olivier Pantalone.
Voilà, et qui est une équipe qui marchait très bien, qui avait fait plein de bons résultats. Ouais. Donc, attention.
Et cette équipe lorientaise qui jouera aussi les quarts de finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice.
Également. Voilà. Et on va en revenir. J'ouvre un peu la porte sur ce qui va arriver. En temps normal, je te dis, tu vas à Brest, tu dois espérer un résultat. Mais quelle équipe tu vas avoir à Brest? Voilà. Dans quel état tu vas être à Brest? Ça, c'est un problème.
Je pense que ça dépendra en grande partie du résultat et de la prestation face au Racing Club de Strasbourg samedi à 17h au Vélodrome.
Oui, mais ça va impliquer beaucoup de choses parce qu'en même temps, il y a ce quart de finale de Coupe de France qu'il ne faut pas galvauder et négliger, bien entendu. Ouais. Et quel va être l'accueil des supporters, en l'occurrence, selon...
Parce que c'est vrai que pour ce déplacement à Brest, ça sera en ouverture de journée, donc il y aura 5 jours d'écart entre le match de Strasbourg et ce déplacement en Bretagne.
Alors, une lueur d'espoir pour nous, mais il y a tout qui peut être remis en cause, justement, sur ces prochaines journées.
Voilà, le problème sur le stade, alors moi, j'y serai pas, puisque... suite à certaines fumigènes et des feux d'artifice.
On rappelle que... par rapport à l'attitude et au comportement de certains supporters, la partie basse du virage sud sera fermée pour la réception de Strasbourg ce samedi.
Les ultras sont suspendus, ça va me coûter 15 euros pour aller en gagner.
Responsable mais pas coupable, voilà, à l'origine de ces faits.
Mais disons que cela dit, on peut craindre quand même une bronca à l'entrée. Alors, à mon avis...
Et là, quand on a vu déjà les banderoles affichées face au Stade Rennais en Coupe de France la semaine dernière, on peut imaginer qu'après l'humiliation, la claque, je vous appelle ça comme vous voulez, subie dimanche soir au Parc face au PSG, il y aura de nouveau des banderoles qui fleuriront dans les tribunes et les travées du
Vélodrome. Au niveau banderoles, nous n'utilisons pas les mêmes processus que...
Que
nos amis parisiens, malheureusement, là on était plus dans l'homophobie et le racisme, malheureusement. Je dis pas que ça a influé en quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça vachement dégueulasse.
Oui, c'est assez lamentable. Ouais. Mais moi je pense que.
Parenthèse refermée sur l'ambiance au Parc.
Ce que tu disais, Thierry, c'est-à-dire avant le match de coupe, c'était on veut la coupe et tout. Donc tu t'es qualifié, tu as gagné 3-0, c'est bon. Par contre, c'est pas le problème d'avoir perdu, il faut bien l'expliquer à nos auditeurs.
Ouais. C'est pas d'avoir perdu. On va revenir en détail sur la prochaine demi-heure qui nous reste sur le match et le contenu.
Sur la Ligue des Champions, tu joues Liverpool à la maison, certes. Ouais. Tu prends 3-0, tu n'as pas été bon, mais c'est Liverpool. Et quand tu prends 3-0 à Bruges sans courir, là, il y a un problème.
Oui, mais ça reste
un
problème
Paris,
récurrent, ça.
C'est pas la défaite, c'est la manière. C'est-à-dire que tu en prends 8.
Quand on voit la prestation de Liverpool ce week-end face à Manchester City en Première Ligue, on voit quand même le niveau que cette équipe des Reds...
C'est quand même une belle équipe, même s'ils ont perdu contre Man City. Rappelons quand même qu'ils mènent 1-0 à la 84e. ils prennent un but, ils ont une péno à la 93.
Pour en revenir à cette équipe de l'OM face à Liverpool et à cette fin de parcours européen.
Oui. Et oui,
c'est on en revient à notre comportement footballistique. Voilà. Il est là, où le bas blesse, c'est là.
C'est-à-dire, c'est contre Paris, tu perds, c'est pas une surprise, c'est quand même l'équipe championne d'Europe. Et quand même, je pense qu'en plus, dimanche soir, Dembélé a montré
on a retrouvé le ballon d'or.
Après, quand on voit la prestation de nos Olympiens il y a un mois face au PSG lors du Trophée des Champions au Kuwait.
Tu dois gagner, tu as fait un bon match, même si tu perds au tir au but, tu as fait un gros match. Et les supporters. Mais
que s'est-il passé en l'espace d'un mois?
On en revient à l'investissement de nos joueurs et justement ce qu'ils ont donné sur le terrain. Mais en l'occurrence.
Il y a eu une série de mauvais résultats entre temps. Et bon, après, on voyait que. On a vu que le PSG n'était pas au mieux ces dernières semaines. Mais bon, quand on voit ce PSG-là dimanche soir, ils sont quasiment
injouables. Qu'après le match aller, ils n'allaient pas nous faire un cadeau ce match.
Oui. On a senti qu'eux... le problème, c'est qu'eux, ils avaient ciblé ce match. Ouais. D'ailleurs, Dembélé l'a dit après au micro. Mmh. Il s'empressait de dire qu'on voulait mettre les pendules à l'heure. Mmh. Et ils l'ont fait. Ils ont fait un gros match.
Ah, c'est le moins qu'on puisse
dire. Toi, tu sais aussi que c'est important pour toi, pour tes supporters, pour l'avenir. Tu perds, mais tu perds avec les honneurs. Tu perds 3-1, tu te bats, tu rentres dedans, tu te crées des occas. Là, ils en mettent 8 ou 9, il n'y a rien à dire.
Mais parce qu'il
y a 4 poteaux, je crois.
Ce n'est pas d'échouer, c'est de ne pas avoir essayé.
Oui, tu n'as même pas essayé.
Et là, le souci majeur.
Comme le marquaient nos amis de la province en une hier,
nul.
Je veux dire, au niveau de la prestation, je veux dire, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Dans cette équipe olympienne, qui est-ce qui est sorti du lot qui a réussi à...
On peut nominativement critiquer, etc., ou jeter la pierre, mais oui, sorti du lot.
Après, dans les choix que Roberto De Zerbi avait opté dans sa compo de départ,
et moi,
le fait de voir Naïef Aguerre de nouveau blessé, ça a été un coup dur. On s'attendait à voir le défenseur marocain titulaire et finalement, il n'était même pas sur la feuille de match.
Rien. Ouais.
Moi, je suis d'accord pour critiquer De Zerbi parce que je pense qu'il a une part importante de responsabilité.
On peut le souligner.
Après, l'équipe que tu as alignée était la même qui avait gagné un championnat. Était à peu près la même
très cohérente.
C'est-à-dire une défense à 3 avec des pistons.
Le système de jeu était identique.
De 3 à 5 défenseurs,
Après, tu ne vas pas m'expliquer.
Mais en fait, c'est vrai que dans son approche tactique, Roberto De Zerbi, il reste fidèle à ses principes en alignant un 3-4-2-1.
Après, il y a l'implication des joueurs. Il est là,
avec Emerson et Timothy Weah en tant que piston. Mais c'est vrai que. Cette défense devant Geoffrey Delange, qui était composée de Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Benjamin Pavard. Est-ce que ça a été opportun de la part du technicien italien de relancer Benjamin Pavard sur ce match-là, en sachant que...
En théorie, un champion du monde qui a été titulaire 4 ans au Bayern Munich et 4 ans à l'Inter Milan, qui a joué... gagné la Ligue des Champions.
Mais on sait qu'il est en grande difficulté depuis plusieurs semaines, l'ex-international français.
Il fallait bien le relancer. Il est évident qu'il a mal pris de ne pas jouer les matchs précédents et ça s'est ressenti.
Et qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait mis Egan Riley, qui est ta seule solution, puisque tu as exfiltré Murillo, qui n'était pas le principal responsable
qui
à mon
avis.
Egan Riley, qui est arrivé l'été dernier, comme Benjamin Pavard, et qui joue très très peu ces dernières semaines.
Qui joue très peu et qui était un joueur de Ligue 2 anglaise, qui est libre.
Niveau comme à l'instar de ses partenaires.
Il est pas mal, mais tu l'aurais mis lui et il aurait pris le bouillon, tu te faisais tuer. Il a mis des mecs d'expérience parce que moi je veux bien qu'on critique De Zerbi, mais à un moment donné, c'est pas De Zerbi qui dit aux mecs de pas courir, quand tu as perdu le ballon, de pas défendre, de rater le ballon et de faire une.
L'implication personnelle et collective.
Sur le second but, le Balerdi qui rate le ballon. Il rate le dégagement, il tombe.
Après, on parle de Roberto De Zerbi. C'est sa deuxième saison à Marseille. Mais cette année, je pense qu'il a quand même eu l'effectif qu'il souhaitait.
Globalement.
Même
globalement,
je pense qu'il y a eu quand même un coup dur avec le départ d'Adrien Rabiot en début de saison. Mais bon,
c'est certain.
On ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que... comment...
Tu parlais de défense, j'allais parler de milieu de terrain et puis de l'ensemble de l'équipe, hein, ce qui fait les liants. Et il est vrai que là, on était très faible au niveau du milieu de terrain, évidemment, qu'il manque toujours quelqu'un. Et derrière, bon, bah, évidemment.
Mais c'est là, base, c'est vrai que l'association Pierre-Émile Hochberg-Kentin-Timber, ça n'a pas véritablement fonctionné.
Le problème, Paris, on sait que leur force depuis l'année dernière, c'est leur trio. Alors, il manquait
Fabien Ruiz.
Il manquait Fabien Ruiz qui est blessé. Mais il y avait
João Neves et Vitinha
qui est pas mal, mais João Neves, Vitinha, c'est des monstres. Tu sais que c'est leur force, Paris, milieu de terrain, et ils sont trois, sans compter que leurs ailiers viennent chercher.
Après,
les ballons
il y a eu la titularisation et l'incorporation du petit Seni Mayulu qui avait marqué en finale de Ligue des Champions,
qui a fait un bon match. Et on sait que Luis Enrique fait rentrer ses latéraux en milieu pour renforcer et puis pour venir attaquer Nuno Mendes et Zaïre Emery qui remplaçaient
Achraf Hakimi, suspendu.
Voilà, suspendu.
On l'a vite
compris. Donc, ton milieu de terrain, il est essentiel. Et si ta défense, elle prend l'eau, c'est aussi parce que ton milieu la protège mal. Parce que tu prends les vagues. Quand tu as des Dembélé, des Barcola, des Doué qui arrivent lancer
Timber
à fond
et
les
Holberg
ballons.
Pour colmater les
brèches. C'est vrai que les trois attaquants de l'équipe de France, que ce soit Bradley, Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.
Ils sont très rapides.
C'est des joueurs qui vont très très vite. Et
avec nos pistons qui avaient un travail ingrat. Évidemment, ils étaient plus défenseurs, moyennement, pistons, pas vraiment.
Et moi, je pense que là où j'ai une critique à faire à De Zerbi, c'est à la mi-temps, ils changent un joueur. Ils sortent Moineri qui n'était pas.
C'est vrai.
Et ils mettent Pechao qui a pas été mal, qui a fait un match à peu près correct. Après, quand toute l'équipe sombre, tout le monde
s'est
senti sombre.
Concerné,
mais au moins, il se bat, il défend, il travaille. Ouais. C'est une bonne idée. Par contre, il fallait renforcer ton milieu. Il fallait mettre un troisième milieu récupérateur.
C'est vrai qu'il n'y a eu que trois changements dans cette partie de la part de Roberto De Zerbi. Et puis bon, il y a presque 20 minutes qui s'écoulent entre le premier et le deuxième changement, qui est l'entrée de Imad Abdelli, l'international algérien, à la place de Benjamin Pavard.
Voilà,
première malheureuse.
Mais le problème, c'est que tu as 3 ou 4-0, match il est mort. Tu fais rentrer
L'entrée de Bilal Nadir à la place de Mason Greenwood à 10 minutes de la fin, c'est
anecdotique.
La messe était quasiment dite.
Alors, d'autant plus un problème que la qualité principale de Nadir, c'est pas de ratisser au milieu de terrain et de rentrer dedans. Hein. C'est plutôt un fin technicien un peu léger. Quoi.
Il était un peu tard, peut-être.
Et voilà, donc à un moment
Moi, ce qui me surprend et ce qui m'interpelle, c'est le fait d'avoir laissé nos deux milieux de terrain, que sont Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia, pour ce match. En sachant que Geoffrey Kondogbia jouait tous les matchs en tant que titulaire en Ligue des Champions.
On aurait plutôt en intégrer un troisième de milieu, mais à ce moment-là, ça aurait tout chamboulé au niveau de l'équilibre de l'équipe. De quel équilibre
c'est entre guillemets. Là, il aurait fallu changer complètement le système.
Absolument.
Peut-être un milieu à trois avec Kondogbia en pointe basse qui ratisse devant la défense.
Renforcer le milieu pour éviter de prendre l'eau.
Parce que les mecs, ils arrivent à lancer central. Quand tu regardes les buts, le pire, c'est que tu prends des contres.
Quand on connaît la qualité des joueurs offensifs,
la qualité de leur milieu, Vitinha, Neves, à faire des ouvertures, à te donner des ballons dans la profondeur.
On a vu arriver le naufrage avant de prendre l'eau.
Voilà, parce qu'en première mi-temps, tu es 2-0 à la mi-temps, mais il y en aurait 4, il n'y a rien à dire. Ouais. Hein. Ils ont des occasions, ils ont des barres. Et puis Barcola a pas fait une très... Il a été bon dans le jeu, mais mauvais à la finition.
Ouais. Voilà. C'est ce qu'on lui reproche souvent. Il y a beaucoup de maladresse pour Bradley Barcola. Voilà.
Et heureusement pour nous, parce que tu as pris l'eau c'est quasi systématiquement. Et à un moment donné, tu dois le voir et tu dois renforcer ton milieu, tu dois couper devant. Quoi. Voilà. Tu dois mettre peut-être revenir à une défense à 4 et 3 ou 4 milieux avec un mec qui fait 9-10, qui fait 8-10. Quoi.
C'est évident. Mais j'ai senti, nous l'avons senti totalement désemparé. De notre entraîneur, de Roberto De Zerbi, a d'habitude est un homme de réaction qui agit physiquement sur le bord de sa touche.
Oui, là, il
mais là,
KO
aucune
debout,
réaction.
Mais là on aurait dit qu'il était à court de solution. Pourtant, quand je regarde le banc de remplaçants, à part les trois joueurs qui sont rentrés, il y avait Geronimo Rulli, CJ Ganraile, Geoffrey Kondogbia, Arthur Vermeeren. Ahmed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang.
Ouais. Donc il y avait du monde.
Il y avait quand même des solutions, que ce soit tant en attaque au milieu de terrain.
Oui, mais même...
Mais ça allait changer quoi
À la fin de match, Gouiri, il est bouilli parce qu'il il a pas été bon, Gouiri, mais il a cavalé, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Évidemment. Il est souvent redescendu, filé un coup de main au milieu et tout. Mmh. Le mec, il est mort. Faire entrer Aubameyang, tu essaies d'envoyer un ballon en profondeur, il est rapide. Voilà, tu n'as même pas essayé, moi, ce qui m'a...
Essayer de relever
la
tête.
C'est pour ça, parce que quand je vois dans un match comme ça, où on a été autant en difficulté, le fait de laisser des joueurs sur le banc, tels que Geoffrey Kondogbia, Arthur Vermeeren, ou à la rigueur, Pierre-Emerick Aubameyang, qui, avec toute son expérience, aurait pu faire beaucoup de bien à l'attaque marseillaise.
Alors, oui, et nous attendions de notre meilleur joueur, je ne vais pas le citer, évidemment, une autre prestation.
Oui, mais Greenwood, il a... Greenwood,
c'est vrai qu'il est complètement passé au travers.
Oui, positionnement, évidemment, qui n'est pas le sien à la base, mais ça n'explique pas tout.
Oui, parce que Greenwood, tu le mets à gauche, alors qu'il joue plutôt à droite. Il a ses repères à droite, avec en plus Timothy Weah qui dédouble. Ouais. Tu le mets à gauche, parce que tu mets Nwaneri à droite. Je préfère tenter le jeune Nwaneri seul à gauche, démerde-toi, et au moins laisser Greenwood là où il a ses repères.
Ça a été mon sentiment également.
Et donc on a vu que le baby gunner, le jeune anglais, était encore un peu léger et tendre pour disputer un match et un sommet aussi important.
En plus, il jouait, lui, c'est plutôt un ailier droit, puisqu'il est venu en remplaçant de Greenwood.
Effectivement.
Et éventuellement un 10, en équipe des espoirs des U17-18 anglais, jouait en 10, en numéro 10, en meneur de jeu. Tu la mets ailier gauche, avec un gros travail défensif à faire. C'est-à-dire, tu contrôles Zaïre Emery, quoi. Voilà.
C'est pas un cadeau, demandé, voilà. Mais le match en lui-même a voulu cela.
Voilà, et c'est un jeune qui a 18 ans qui est arrivé à 15 jours. Quoi. Tu le balances d'entrée, c'est peut-être lui demander beaucoup. Moi, j'aurais plus mis Pexao, qui est gros travailleur et qui a l'habitude des matchs de haut niveau, de Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai. On a vu qu'il a joué la Ligue des Champions avec Feyenoord la saison dernière. Donc,
Même
c'est
si
peut-être le côté gros travailleur qui faisait défaut ce soir-là.
Inexpérimenté n'empêche pas de se battre.
Ben voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire.
Ce que reprochent les supporters, moi j'ai discuté avec des copains, c'est pas tellement d'avoir perdu à Paris. C'est comment tu as perdu.
C'est le contenu et la prestation
Tu as été nul, tu n'as pas une vraie occasion, le gardien russe, il n'a pas fait un arrêt.
Tu n'essaies pas.
Voilà, tu n'as rien fait.
C'est vrai qu'on parlait du choix de Roberto De Zerbi d'avoir titularisé à nouveau Geoffrey Delange après le match de Coupe de France à la place de Jérôme Rouli. Mais c'est vrai que côté parisien, Matvei Safonov, qui était titulaire au détriment de Lucas Chevalier, a très très peu...
Il n'a pas eu d'occasion.
Très rarement inquiété les attaquants marseillais, donc très peu sollicité.
Maintenant, si on rend compte du match de Lang, on ne va pas le critiquer plus que cela, parce qu'il n'y a pas matière à le faire.
Il a surtout été abandonné par ses défenseurs.
Sa défense qui était absente.
Les joueurs qui étaient devant lui.
Si tu prends les 5 buts qu'il encaisse, à mon avis, le seul qu'on peut un peu lui reprocher...
C'est le 5e et dernier but de Lee Kang-in.
C'est le dernier où il pense que Lee Kang-in, le coréen du sud, il va croiser poteau extérieur et le mec, il lui met au premier poteau.
Il est évident que la messe était dite.
Il est surpris, mais tu es déjà
4-0. C'est le positionnement qui fait qu'il encaisse ce but.
En fait, à mon avis, il anticipe, comme le but de Kvaratskhelia, le 4e.
La reprise de volée à l'entrée de la surface.
Une frappe au côté opposé, et donc il ferme pas bien son poteau, et l'autre, il a dû le voir, il frappe rapoteau. Mais où il a une réussite maximale, il a mis rapoteau. C'est le seul que tu peux dire, il est pas, mais les quatre autres, il est fusillé, il n'y a pas de défense devant lui, il est seul. Le premier but, Dembélé, il est seul devant lui. Un centre en retrait, il est seul, mec, au point de pénalty.
Le second, avec une finition formidable, contre ça, tu ne peux pas lutter.
Le second, le mec, il dribble, il te passe les plots, et puis il te met un missile sous la barre. La frappe de Kvaratskhelia, moi, elle m'a rappelé, pour les très anciens, le but de Chris Waddle contre la C
Milan. En 91,
en Ligue des Champions contre la C Milan, la reprise de volée, voilà, qui avait fait 1-0 pour l'OM. C'est un superbe but. Le troisième, c'est Medina qui le met contre son camp, détournant un ballon. Voilà.
Qui est malheureux.
Mec, il est abandonné. Et encore, il a de la chance. Il y a des poteaux qui lui évitent la dérouillée. Et heureusement qu'on n'a pas mis Rouli, il s'aurait fait massacrer.
Ben oui,
alors
parce que là, ça ne l'aurait pas arrangé au niveau psychologique.
Voilà, que le
ça
gardien,
pas relancé,
il peut rien. Mais quand tu prends l'équipe, hormis Balerdi, qui a été mais alors une cata impossible, Pavard aussi... Et
ben je pense
c'est pas remis.
D'ailleurs, on peut juste préciser qu'on attend peut-être des décisions fortes de la part de l'état-major et de la direction du club d'ici la fin de la semaine.
Ils ne vont guère tarder, tout à fait.
Juste avant la réception de Strasbourg samedi au Vélodrome.
Ben, il le faudrait.
Mais les supporters ont demandé immédiatement le retrait du brassard de capitaine du défenseur argentin Léo Balerdi.
Ça semble couler de source, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Ou heureusement, je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais c'est évident que l'implication
la...
donnée pour
Et malheureusement, la prestation de Léo Balerdi dimanche soir au Parc, elle intervient après une multitude de matchs ratés de la part de Léo Balerdi. Donc,
Après, moi, tu ne m'ôteras pas de l'idée... que quand tu as un joueur qui est en difficulté, tu dois le voir et tu dois le faire souffler. Ouais. Et un joueur, il joue dans une équipe, il ne joue pas seul.
Merci.
Quand tu le laisses, parce qu'on te dit Pavard, Medina, ils n'ont pas
été
mauvais.
C'est vrai que
mais
bon,
quand tu prends les vagues, que les mecs, ils arrivent lancés, qu'en face, en plus, c'est des gros joueurs.
Il faut se soutenir mutuellement, ça n'a pas été une seule fois.
C'est vrai
fois
que,
le cas.
Heureusement pour nous, ce n'est pas toutes les semaines qu'on affrontera des équipes du calibre ou du
Paris
Saint-Germain.
Voilà.
Ce soit en Ligue 1.
Tu les affronteras plus jusqu'à la fin de la saison.
Voilà. Là, c'était l'axe 3 contre cette équipe du PSG. Donc,
Et donc, si tu veux le problème, Balerdi, il est mauvais. Le problème, c'est qu'on lui a donné le brassard.
Et voilà.
Certes, il a raté les matchs, mais il n'est pas le seul. Et tu le donnes à qui ? À Højbjerg. Mm-hmm. Je n'ai pas trouvé Højbjerg bon.
Non.
Même en tant que leader, que de rameuteur de troupes, je ne l'ai pas vu.
Timber était beaucoup plus au niveau que
mais je n'ai pas vu. Aubameyang, il n'est pas titulaire. Ben à qui tu le donnes, le brassard ? Et puis, ce n'est pas un problème de brassard. C'est un problème d'équipe.
Tu as
une mi-temps où l'entraîneur doit te recadrer les gars, les remotiver et tout. Moi, j'ai trouvé l'équipe moins bonne en seconde mi-temps qu'en première.
Oui, parce qu'on avait quand même léger espoir en première mi-temps d'essayer de faire quelque chose. Ça n'a pas été le cas.
Oui, tu as tenté un début de match, tu as tenté quelques actions. Tu as eu Guiri qui a eu un ou deux ballons, tu as eu quelques trucs. Weah qui a eu une belle occasion. Tu as essayé en seconde mi-temps, c'est le néant.
Il n'y a rien. Tu as complètement perdu pied. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait 2-0 déjà à la mi-temps. Tu encaisses 3 buts en deuxième, mais bon, c'est...
Pas une seule seconde à la mi-temps. Hein, on pensait que ça pouvait revenir. Alors.
J'aurais aimé être petite souris dans le vestiaire.
Là, comme tu dis, Patrick, c'est vrai que le fait d'avoir complètement raté cette deuxième période, c'est le nombre d'occasions qui est quasiment nul.
Chaque attaque parisienne, tu te disais, on va en prendre un.
Et sur toutes les actions parisiennes, on pensait qu'il y aurait un but.
Voilà. Et toi, tu n'as pas eu... Alors qu'en première mi-temps...
Patrick, tu parles de plots. On a vu des plots en première période, avant de baisser les bras totalement en seconde. Mais là, c'est pas possible de se prendre ces deux premiers buts qui te montrent le chemin de la
peut-être
détresse.
Peut-être qu'il y a eu un peu plus de mouvement et un peu plus d'implication sur la première période.
Oui, parce que tu as l'impression qu'ils y croyaient un peu, qu'ils avaient prévu quelque chose. Et donc, moi, je l'ai vu sur, je dis, Weah, mais tu as eu des... Alors, il a raté sa frappe, d'accord. Mais en fait, le mec, il est monté,
mais
il
c'est
a eu une combinaison.
Le plan qui a été mis en place par l'entraîneur qui a complètement
Tu as deux,
échoué.
Trois actions, tu as Guiri, tu as Donc, Weah, à un moment, tu as Greenwood, il passe pas, il se fait contrer, mais enfin, c'est... Voilà,
non,
tu as des
il
actions...
Il n'y était pas du tout, il n'y était pas du tout sur ce match-là.
Tu as essayé en seconde mi-temps. Si tu me dis quelles sont les occasions de l'OM,
on a quasiment jamais dépassé la surface de réparation parisienne.
A été le discours de De Zerbi à la mi-temps ? J'en reviens au fait d'être une petite souris. J'aurais aimé circuler dans le vestiaire pour entendre. Il est complètement dépité. On le sent que son discours, évidemment, n'était pas à même de remonter ses troupes.
Et quand on voit comment il vient se présenter en conférence de presse d'après match devant les journalistes.
Alors, moi, De Zerbi, j'ai un problème.
On voit qu'on dirait qu'il a complètement perdu
Pardonne-moi,
son vestiaire.
Pardonne-moi, comment ose-t-il dire « je n'ai pas compris »
Il a dit qu'il n'avait pas d'explication, ça.
Comment un entraîneur digne de ce nom peut dire cela ?
Oui, mais
j'ai pas la solution pour remettre mon équipe à flot dans un tel match.
Maintenant,
mais
je jette pas la pierre. Mais
c'est
du mal
lunaire,
à comprendre
c'est surréaliste
cela,
d'entendre des propos pareils de la part de notre coach.
Le problème, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'écoute les radios, les télés, machin, tout ça.
Oui, mais bon, après,
tout le monde
se dit à droite, à gauche.
Non, mais le massacre en disant... Mais le mec, il te dit la vérité. Il te dit, je suis perdu.
C'est évident.
Je ne comprends pas pourquoi, d'un match sur l'autre, on joue bien ou on joue mal, on passe à côté.
Il est honnête.
Je ne sais pas quoi faire. Il est honnête. Ouais, ouais. Alors, il a tort d'être honnête. Ouais, il devrait un peu...
C'est un peu ça,
parce
ce que je veux dire.
Moi,
pourtant, il a toujours une âme protectrice envers ses joueurs.
Oui,
mais bon, là, j'ai l'impression que...
Tu l'as entendu.
Il a l'air complètement désemparé. Là.
Oui,
parce que
ce qui me choque, c'est la réaction sur Murillo.
Amir Murillo, on le rappelle pour nos auditeurs, a quitté le club
transféré
dans de drôles de circonstances. Puisque,
dernier jour de Mercato en Turquie.
Oui,
voilà.
Vendredi, il a rejoint Istanbul et
le
Beşiktaş Istanbul,
voilà.
Avec lequel il a joué quelques minutes.
Et moi, je rappelle
turc.
Que c'est un gars que tu avais acheté 2,5 millions d'euros, c'est-à-dire rien, à Anderlecht en Belgique. Qui a toujours fait ses matchs, qui a toujours eu une très bonne mentalité.
Ça faisait 2 ans et demi qu'il était à l'Olympique
Alors,
de Marseille.
C'est un droitier, arrière droit, tu le mettais couloir,
voilà,
il faisait couloir. Tu le mettais couloir gauche, arrière gauche, il faisait le match.
À différents
tu
registres.
Tu l'as mis défenseur central, il a fait les matchs. Bon, je veux bien qu'il était moins bon là depuis 1 ou 2 mois, qu'il a fait
Roberto
des erreurs.
Apparemment, Roberto Zerbi lui a...
Voilà, mais à un moment donné...
Il a reproché le nombre de buts encaissés sur les derniers matchs.
Oui, mais après, il n'est pas...
Notamment
après
cette triste prestation de nouveau à Paris la semaine dernière
face
au PSG.
Paris FC, et où il a été... Voilà. Où, effectivement, il n'est pas bon.
On rappelle pour nos auditeurs que l'Olympique de Marseille menait 2-0 et s'est fait rejoindre
dans
les dernières minutes.
Le problème, c'est que quand tu pousses un coup de gueule et que tu mets... Tu tapes pas sur un joueur qui a une des plus petits salaires de l'effectif, qui normalement est un remplaçant et qui est rentré et qui a raté un match comme tous les autres d'ailleurs. Tu t'adresses plutôt aux cadres qui ont des gros salaires, où tu leur dis, oh les gars, voilà, tu vois. Et là, moi j'ai eu l'impression qu'on a mis, c'est le responsable, c'est tout, alors que Murillo, c'est un gars qui a toujours fait le boulot.
C'est pas possible de dire cela.
C'est vrai que ça a surpris plus d'un supporter de voir l'international panaméen écarté et trouver une porte de sortie rapidement. Hein.
Parce que c'est un gars qui était plutôt respecté, parce que c'est un combattant qui mouille le maillot, et tu as de la chance, tu es réussi à l'exfiltrer en Turquie le dernier jour, en mettant 6 millions alors que tu l'as acheté 2,5 millions, tu fais même un bénef. Mais c'est un gars qui faisait pas chier, qui faisait le boulot.
C'est évident.
C'est pas lui le responsable.
Comment tu veux remobiliser autour de toi, autour de cela
Et là, tu as quand même un problème de mettre des mecs que tu montes au pinacle et que tu massacres après, comme tu le fais avec Vermeeren, comme tu l'as fait avec
C'est
Mopé.
Surtout la gestion de certains joueurs et de certains cas.
Gestion humaine.
Et c'est vrai que là, le plus bel exemple que tu puisses évoquer, c'est le cas Amir Murillo,
qui
quitte le club dans des conditions
On ne peut pas apparenter ces joueurs comme ses enfants, comme ça a été le cas, comme ça a été dit.
Mais
alors, c'est comme ça qu'on traite ses enfants. Certains joueurs l'ont dit.
Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on cherche les responsables, c'est l'équipe. Pas forcément la composition, d'ailleurs, parce que la composition, elle est normale. Moi, je vois pas mettre un tel plutôt qu'un tel. Enfin, c'est des détails. Mais c'est plutôt que tu n'arrives pas à les remobiliser.
Patrick, comme Franck, dans ce genre de situation, le seul et unique fautif, c'est qui est sur un siège éjectable,
ça peut être
l'entraîneur.
Ça peut être que l'entraîneur.
Donc, forcément, le fait de... stigmatiser et pointer tous les regards du côté de Roberto De Zerbi, c'est normal.
Oui, c'est normal.
C'est légitime.
Le problème, c'est que moi, je pense que c'est un bon entraîneur.
Ouais.
C'est peut-être pas un très grand entraîneur, mais c'est un bon entraîneur. Quand tu regardes son parcours, Il est allé en Angleterre à Brighton. Mais c'est la seule que... fois où ils ont été qualifiés en Coupe d'Europe. Ouais. C'est quand lui, il était l'entraîneur.
Patrick,
il les
juste,
a amenés.
Je te rappelle que... Il n'a pas le même vestiaire qu'il avait auparavant.
Ah oui, 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 oui.
Que ce soit en première ligue avec Brighton ou en Série A avec Sassuolo ou ne serait-ce qu'en Ukraine aussi. Puis on rappelle qu'il a entraîné aussi le Shakhtar Donetsk.
Voilà. Mais après, il n'a pas la même pression qu'à Sassuolo. On ne lui demandait pas d'être européen.
C'est surtout cela.
Même s'il a été à un point d'être en Coupe d'Europe.
Au-delà de la qualité des joueurs que tu as à présent.
C'est donc un entraîneur qui a eu des résultats. L'année passée, c'était pas mal. Tu finis second, il fait...
Peut-être qu'il n'a pas les joueurs adaptés pour le système tactique qu'il veut mettre en place.
Alors, fallait-il l'anticiper évidemment.
Encore que là, moi, je pense que la plupart des spécialistes et des supporters sont unanimes pour dire que cette année, il a
un bel effectif.
Il a eu les joueurs qu'il souhaitait. Je veux dire, on lui a mis quand même du matos à disposition. Voilà. Donc, c'est pas normal qu'il y ait ces résultats aujourd'hui. On attend beaucoup mieux de...
Alors, on peut reprocher, et là, je mets un bémol, qu'il y ait eu tant de compositions différentes de la part de De Zerbi. Mais je ne pense pas...
C'est quasiment plus de 30 compositions différentes sur les 31 ou 32 matchs que l'Olympique de Marseille a disputé ces derniers
mais
temps.
Mais si on sait jouer de quelle manière on doit jouer à ce moment-là, l'implication de l'ensemble des joueurs, donc de l'équipe, qui n'est pas 11 joueurs, qui est l'ensemble du groupe, doivent correspondre justement aux attentes de l'entraîneur.
Oui. Après, donc, il faut composer en fonction des états de forme des uns et des autres. Et c'est vrai que c'est
le rôle de l'entraîneur.
Voilà, il n'y a que l'entraîneur qui peut gérer ce genre de choses.
Après, quand tu regardes les grosses équipes, le Bayern, le Barça, le Real, le Liverpool, le Man City, etc., tu te rends compte que les entraîneurs ne font pas énormément de changements, mais ils en font un ou deux. Oui. Tu as toujours une petite rotation pour repousser les gars. Le mec a deux cartons en 9 matchs, mais
justement, tu fais bien de le souligner, Patrick, parce qu'il n'y a pas un turnover dans les grandes largeurs. Comme peut le faire Roberto De Zerbi avec l'OM.
Peut-être ce qui fut dommageable.
C'est peut-être ça qui explique les résultats d'Annecy depuis plusieurs semaines, plusieurs mois.
Moi, quand je regarde bien, soit tu joues en défense à 4, tes latéraux c'était Murillo, Emerson ou Pavard à la place de Murillo.
Okay,
et ta charnière c'était Balerdi à Gerd. Voilà. Tu joues avec deux milieux, mais tu joues avec un 10. Le seul truc c'est que par rapport à Brighton ou à Sassuolo, il n'a pas de numéro 10.
Ouais.
Voilà. Le seul qui est un peu...
Quoi qu'on en a toujours pas, numéro 10.
Et si, quand même, tu as pris Moaneri, parce que ça peut être une 10. Voilà.
Il pourrait être...
En équipe U19 anglaise, il joue en 10. Et c'était le seul truc, à part que ça coûte cher. Voilà. Et tu as un peu Bilal Nadir, ce qui explique peut-être qu'il le fait beaucoup jouer, alors que physiquement, il est un peu léger dans les contacts.
Mais enfin,
il a une belle technique, c'est un beau joueur. Mais peut-être, c'est peut-être pas le combattant idéal. Mais c'est vrai que sinon, il a l'équipe. Après, s'il te demande.
Bon, après, c'est vrai que Bilal Nadir, il n'est pas forcément très, très décisif. Les rares fois où il a été titulaire dans cette équipe.
C'est un bon joueur de Ligue 1, mais de Ligue 1, moitié milieu de tableau.
De là à être titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille.
Il reste limité à un certain point, évidemment.
Donc c'est un jeune volontaire et sympa qui rentre, qui fait ses matchs, qui se bat. Enfin, c'est pas... Voilà. Donc tu avais un problème là-dessus. Mais sinon, l'effectif, quand tu regardes, c'est pas mal. Après... c'est aussi à toi de faire progresser tes joueurs. Et ce qui, moi, me dérange, c'est qu'à Brighton, il y a les mecs qui n'étaient pas connus, qu'ils ont pris, qui ont explosé. Voilà, tu as eu à Sassuolo, il a fait sortir des mecs qui sont retrouvés en équipe d'Italie. Enfin, voilà. Et là...
Mais on lui a souvent reproché, Roberto De Zerbi, de faire un changement régulier sur la composition d'équipe. C'est que... Il y a du mouvement en permanence dans cette équipe de l'OM. Après, on sait que pour vraiment avoir des résultats, il faut s'appuyer sur un noyau dur et avoir une base de joueurs.
C'est évident.
Pour jouer toutes les compétitions.
Maintenant, il y a eu pas mal de bouleversements de début de saison, au milieu de saison, évidemment.
Ça, c'est le boulot des dirigeants.
Moi, je
veux être complémentaire avec son entraîneur, bien évidemment.
Après, moi, ce que j'ai vu cette année, je donne mon avis, c'est que le mercato, tu n'avais pas fait grand-chose. Tu avais travaillé Timber, qui est un futur, puisqu'il était libre. Tu l'as eu à 4 millions et tu te fais prêter.
Mais on sait que Timber, c'est un joueur qui était suivi déjà depuis un petit moment par les dirigeants marseillais.
Et que tu n'avais pas acheté parce qu'il était évalué 25-30 et que tu l'as eu à 4 millions parce qu'il était en fin de contrat en juin. Il ne voulait pas prolonger.
On a fait des bons coups à ce niveau-là.
À Feyenoord. Mais le reste,
c'est vrai qu'il s'était embrouillé aussi.
La fin du mercato. La fin du mercato.
C'est pour cela que ça a venu également.
Oui, c'était embrouillé avec Van Persie parce qu'il était capitaine de Feyenoord. Et comme il n'a pas voulu prolonger, comme c'est le cas aussi à l'OM d'ailleurs et dans beaucoup d'autres clubs, on te met sur le côté.
Il a été placardisé.
Voilà. Et donc, il a eu
de
des
là,
mots
il a
avec
eu l'opportunité de quitter le club néerlandais.
Donc c'est une occasion. Oui, c'est une des rares. Même à Paris, c'était un des moins mauvais. Quoi. Voilà. Bon. Parce qu'il n'y a pas eu de bons, mais il y a eu des moins mauvais que d'autres. Mais par contre, la fin de Mercato avec les départs de O'Reilly, de Gomez, de Bacolin, tu as tout
Robinho
dégagé.
Vaz.
C'était les 3-4 derniers jours. C'est-à-dire après l'élimination en Ligue des Champions, où ton effectif il est surdimensionné en nombre.
Ben, c'est vrai que une compétition en moins et qui plus est l'Europe.
Et tu as dégagé des mecs, tu as fait venir des nouveaux et tu as beaucoup bougé. Tu es même allé vendre Murillo après la fin
on
du mercato.
On notera aux deux mercato, justement.
Tu as réussi à exfiltrer tous les joueurs indésirables qui auraient pu être dans le loft.
Je ne parle pas des joueurs qui étaient dans le loft au mois de juillet-août. Lirola, Blanco, qui eux, qu'on a fait partir. Ça c'est fait au début janvier. Mais la fin janvier, tu as eu un truc panique. Après l'élimination à Bruges.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est là que tu as fait plein de mouvements. La majorité des mouvements, ils sont là. Et tu avais un problème dans l'équipe, la placardisation de Vermeeren, même si Vermeeren, il n'est pas blanc-blanc, et que tu ressors le fait de dire qu'il a été prêté à l'Atlético, ils ne l'ont pas gardé.
C'est un fait, mais ça ne va pas.
Mais après, ça veut dire que tu avais une crise dans l'équipe, que tu as essayé de dégager des mecs pour faire de la place, pour faire venir des nouveaux.
Oui, c'est surtout
mais là,
ça.
C'est vrai que depuis ce match de reprise qu'on a perdu face au FC Nantes début janvier, où il prend ce carton rouge. Il a disparu des radars et puis bon là il avait l'opportunité peut-être de partir et de quitter la Ligue 1 pour le championnat turc.
C'est lui qui a payé le prix.
On sait qu'il a été tout près de rejoindre
Galatasaray
durant le mercato hivernal.
Après ça s'est pas fait. Je sais pas si c'est lui qui a pas voulu. Parce que la Turquie, tu sais qu'il y a souvent des problèmes, ils ne payent pas. Enfin, c'est un peu parfois compliqué. Ou si c'est que ça ne s'est pas fait parce que Galatasaray a pris quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais à un moment donné...
Mais bon, ça n'a pas empêché Amir Murillo de quitter l'OM pour Beşiktaş et rejoindre le championnat turc.
À un moment donné...
Rapidement, il nous reste 3 minutes.
Moment donné, ton boulot... C'est aussi de relancer des gars qui sont en difficulté et puis de faire avec Scotiard, quoi. Et moi, à Paris, à la limite, est-ce que Vermeeren aurait été plus mauvais que certains? Est-ce
que tu aurais pu
le mettre au milieu, renforcer ton milieu, être 3 au lieu de 2?
Je peux revenir très rapidement sur ce que tu disais là, il y a un instant. Il s'agissait justement, quand il avait Sassuolo, Brighton, etc., il y avait beaucoup de joueurs en devenir qu'il a su... Faire optimiser leur rôle, leur situation est très progressée en tout cas. Et en l'occurrence, c'est un peu plus difficile avec les joueurs actuels qui sont de très bon niveau.
Oui, qui sont peut-être. Parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'il avait fait venir, c'est que Sassuolo, Brighton et même Donetsk, ils ont beaucoup de Brésiliens qui prennent et qui faisaient progresser à l'époque. Il était connu pour ça, pour faire progresser les jeunes et les faire jouer. Là, en tout cas, c'est vrai que le problème aujourd'hui, tu as l'impression que le gars, il est paumé, il te le dit d'ailleurs.
Ah, il est très honnête sur son discours. Ouais,
et le risque moi je vois, c'est que si tu as 2-3 mauvais résultats, à Marseille, on sait que les supporters sont pas...
Très rapidement, il nous reste 2 minutes. Messieurs.
On est dans le Money Time, véritablement.
Là, on se met à la place rapidement avant de rendre l'antenne et conclure. Pablo Longoria, Mehdi Benatia. Avec Roberto De Zerbi, on est à 4 jours de OM Strasbourg au Vélodrome samedi après-midi. Qu'est-ce qu'on fait avec le technicien italien?
Où il y a des décisions qui vont être franches et tranchées, ou alors on va patienter, probablement.
C'est-à-dire que comme tu as une équipe qui est capable du jour au lendemain d'être nulle, et le match d'après, on a perdu à Bruges en étant nullissime, et après tu balances en faisant un très bon match, tu ne sais pas, et en plus... Si tu vires de Zerbi, en dehors du fait que s'ils demandent, ça peut
la,
coûter cher.
L'indemnité.
Voilà, parce qu'ils ont le licenciement de 2 ans. Qui tu mets ?
Quoi qu'il a avoué vouloir être prêt à démissionner.
Parce que là,
mais bon,
pour parler d'autre chose que de l'OM, Rennes a licencié Abbey Bay.
Voilà, justement, j'allais faire le parallèle avec nos amis Rennais qui se sont inclinés sur la pelouse de Lens.
Ils ont déjà un accord
Franquez qui a quitté l'OGC Nice au mois de décembre.
Voilà, donc est-ce que toi, tu as quelqu'un prêt à venir dans le Bourbier ?
Non.
Encore qu'il y a une rumeur d'Afrique qui faisait état d'un contact avec Walid Regragui, le sélectionneur démissionnaire du Maroc qui a perdu la CAN il y a quelques semaines.
Oui, mais, non, c'est un bon entraîneur, mais je veux dire, il ne connaît pas le champion. Enfin, il connaît, il a joué en France. Mais...
Il a joué du côté de Toulouse et Ajaccio.
Oui, mais c'est comment dire, là, il te faut quelqu'un qui reprenne l'équipe en 3-4 jours et qui te remette d'aplomb.
Voilà, là, c'est Benatia qui va se prendre la pierre si
Donc on aura compris, pour l'instant, faute de remplaçant, on continue avec Roberto De Zerbi.
Voilà.
Ben on va refermer cette émission avec ces dernières paroles sur le cas De Zerbi. On y reviendra en grande largeur la semaine prochaine, où on débriefera, on évoquera ce match de Strasbourg au Vélodrome samedi.
Wow.
Voilà, on rend l'antenne, on dit bonne fin de semaine à tous nos auditeurs on vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur les programmes de Fréquence Mistral.
Voilà,
bye.
Meilleur que notre dimanche soir.
Il y a de fortes chances.
Allez, merci, au revoir.
À bientôt.